Blanc de Noir, deuxième partie.
Et voilà, toujours accompagné d'un piano improbable, et c'est très bien pour notre émission qui fait une part belle à la musique. Toujours Hervé Lecor, merci beaucoup d'être avec nous. On parle de Prendre les loups pour des chiens, édition Rivage, un roman qui est sorti début d'année. Et puis, on a parlé des personnages, maintenant il faut parler de la lumière. Ce mot lumière revient pratiquement à toutes les pages, surtout au départ. Elle est omniprésente. Et je vous cite, parce que j'adore cette phrase, tous les volets étaient clos, mais la lumière blanchissait à la moindre fente, forçait le moindre interstice, sur le point peut-être de faire céder tous les obstacles qu'on lui opposait, pour ensuite se ruer dans les pièces et tout y calciner. On brûle tout. Il y a une idée de... Voilà, on va tout brûler.
Disons que la lumière, si on dit qu'il y a beaucoup de lumière dans ce bouquin, on pourrait s'attendre effectivement à un bouquin solaire, lumineux, heureux. Parce que la lumière, elle est, a priori, elle est associée au bonheur, au développement des êtres et des plantes, enfin, à tout ce qu'on veut. Sauf qu'ici, pour moi, la lumière, je ne pouvais la voir que aveuglante. Brûlante, c'est de la lumière aussi bien que c'est du feu. Pour ça, dans la phrase que vous avez lue, c'est une lumière dangereuse, redoutable. Et on parlait tout à l'heure, on parlait de roman noir. Il me semble que c'était intéressant pour moi, en tout cas, de faire percevoir la noirceur de l'histoire, de l'atmosphère, de l'ambiance. Justement en opposition avec cette lumière. En plus, pour revenir au personnage de Franck et à ce personnage qui n'y comprend rien, c'est un personnage qui passe constamment de l'éblouissement à l'aveuglement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'éblouissement, on s'en remet au bout de quelques secondes. L'aveuglement, ça perdure et ça mène... Jusqu'aux extrémités, ça mène jusqu'au piège fatal. Et ça m'intéressait de travailler sur cette lumière finalement malfaisante. Ouais.
Une lumière malfaisante, mais qui pose aussi beaucoup d'ombre. Mais ce qui est l'intérêt du roman, d'ailleurs de vos romans précédents, c'est que on définit pas la frontière de ces lumières. Peut-être aussi par rapport, ça s'appelle l'effet Doppler, hein, quand on passe à travers les troncs d'arbres comme ça qui peuvent être des barreaux, et ben, lumière flash, lumière flash, lumière flash, et on définit pas le blanc et le noir, on n'a pas de frontière finalement. Il n'y a pas d'ombre et de lumière, c'est important aussi ça pour vous, il me semble.
Oui, ou disons qu'à partir du moment où on a de la lumière, il y a de l'ombre, et à partir du moment où il y a de l'ombre, c'est que la lumière l'a provoqué, donc les deux sont intimement liés. De même que pour moi, en tout cas, dans ce que j'essaye d'écrire, la noirceur de mon projet et de ce que j'écris, je ne la conçois pas sans qu'il y ait en contraste un éclairage, un personnage qui soit une loupiote, un petit lampareau qui éclaire tout de même un petit peu. C'est-à-dire qu'on ne peut voir les ténèbres qu'à partir du moment où on a une source lumineuse à un moment donné qui permet d'avoir cette profondeur, ce contraste. C'est ça aussi qui m'intéresse.
Alors cette petite loupiote, c'est Rachel.
C'est Rachel, évidemment.
C'est Rachel. Alors Rachel, c'est l'enfant, c'est la petite fille de Jessica. Alors c'est un personnage, je ne sais pas comment elle est intervenue, on ne va pas trop en parler parce qu'on n'a pas trop le temps, mais c'est un personnage fabuleux. C'est le témoin des histoires d'adultes. Mmh. Et ça, témoin, c'est un mot important dans ce roman. Elle est la fille de Jessica et... Ce que je trouve formidable, c'est qu'elle ne s'exprime pas, comme si elle reste enfant parce qu'elle ne s'approprie pas les mots d'adulte. Il ne faut pas mettre des mots sur ce qu'elle voit.
Probablement parce qu'elle n'a pas les mots déjà, parce qu'elle est trop petite pour les avoir. Possible aussi qu'elle en ait trop vu, trop entendu pour pouvoir même le répéter. Et puis peut-être aussi que, justement, son dernier refuge, c'est justement l'enfance. Je pense que, c'est vrai qu'elle est petite, elle a 8 ans, et que le monde des adultes, comment dire, elle se réfugie, c'est une gamine qui se réfugie en elle-même, en son enfance, justement pour ne pas mettre un pied dans cet univers écœurant et violent des adultes. Je la vois comme ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé, si je puis dire, sur son silence. Mmh. C'est un personnage que j'ai adoré écrire. Et j'ai beaucoup, je sais pas si elle a 20 répliques dans tout le bouquin, c'est 30, oui, c'est le maximum.
Et elle est omniprésente.
Et elle est omniprésente. Et quand elle parle, pourtant, c'est pas pour dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle elle met en avant son enfance, ses jeux, ce côté.
Ses gestes.
Ses jeux. Mais quand elle parle, elle parle de ses jeux, elle parle de ses petites préoccupations toutes bêtes, mais elle parle jamais d'essentiel, évidemment. Et ça, c'est un personnage que j'ai adoré la concevoir. Et puis pour moi, on parle des loups et des chiens, c'est un petit peu mon petit chaperon rouge. Parce que je l'habille de rouge à deux reprises et je tenais beaucoup à cette couleur.
Et en fait, c'est le vrai sujet du roman, l'enfance, qui est à la fois tragique et magique. Parce que finalement, Franck, s'il n'arrive pas à voir, s'il est aveuglé par cette lumière, s'il a ces arbres qui sont des barreaux, c'est juste parce qu'il est aveuglé aussi par son enfance, enfermé par cette enfance. Et puis, il y a les autres, il y a le cerf, il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées dans l'enfance.
Oui. Non, Franck, c'est quelqu'un qui est encore replié un petit peu sur lui-même et sur cette enfance un petit peu martyrisée, massacrée qu'il a vécue. Et il y a une chose, alors sans vouloir raconter la fin, mais il y a une chose à laquelle je tenais. Il y a une chose à laquelle je tenais absolument à un moment donné. C'était de lui faire retrouver un minimum de paix, un minimum de sérénité, parce que c'est pas important dans l'intrigue criminelle, de toute façon, mais un peu de paix, un peu de sérénité par les retrouvailles avec le père. Voilà, ça je tenais beaucoup. On peut le dire parce que c'est pas une
c'est pas intéressant
par rapport à la tension dramatique, mais une fois après avoir écrit ces scènes avec le père et lui vers la fin, je me suis demandé si finalement j'avais pas écrit tout ce bouquin pour deux choses. D'abord pour mener au bout ce petit personnage de Rachel et pour aboutir à cette scène de retrouvailles entre le père et les filles. Je me demande si au fond du fond, profondément chez moi, effectivement, c'est pas là peut-être l'essentiel du bouquin. Au-delà de l'intrigue criminelle, au-delà de la violence.
C'est qu'on ne déflore pas toute l'intrigue du roman. Y a aussi un chien. Et le chien, c'est un peu, alors on file un peu la métaphore, c'est ce chien, c'est un cerbère qui garde les portes de l'enfer dans lequel vont rentrer et sortir. Mais l'avantage, c'est que vos enfers, on peut en sortir quand même, non ?
On peut en sortir. L'enfer tel qu'on le conçoit dans les vies, dans la vie matérielle.
Tel que les hommes vivent.
En général, on peut toujours si on se bat correctement, on peut toujours en sortir. Ce chien, c'est le chef de meute un petit peu. C'est aussi l'incarnation du mal, de la violence, de la menace. Voilà. Ça m'a intéressé aussi je l'ai vu immédiatement, ce chien énorme. Je l'ai en tête. Si jamais il y a un film qui est fait de ce bouquin, je tiens absolument à participer au casting du Clébard.
Tout pour le Clébard. J'espère pour Rachel aussi. On va terminer par une question un petit peu plus générale et on va revenir à Aragon dans un autre poème. Il dit « Rien n'est précaire comme vivre. Il faut donc coucher des vies sur le papier. » Est-ce que c'est un projet d'écriture ?
Oui. Bien sûr. Coucher des vies sur le papier, c'est d'abord... Souvent, on dit que lire, c'est vivre des centaines de vies différentes. Mais écrire aussi. Écrire, c'est vivre la vie, les vies de tous les personnages, d'une certaine façon, même si on ne fait pas toute leur biographie. Mais c'est aussi... C'est complémentaire, ça marche ensemble pour moi. C'est aussi comprendre. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? J'en sais rien. Et c'est ça que je cherche à comprendre. C'est une des raisons pour lesquelles j'écris des romans, noirs ou pas, peu importe la couleur, à la limite, mais c'est essayer de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Pourquoi est-ce qu'ils sont... Pourquoi cette violence, en particulier ça m'effraie, ça m'inquiète. Pourquoi cette violence, pourquoi ces destins brisés, pourquoi cette violence sociale, criminelle, etc. Et pourquoi à un moment donné les gens, ou bien supportent-ils leurs conditions de vie sans s'insurger contre? Et pourquoi les gens commettent-ils certains actes criminels, quitte à parfois s'en prendre à leurs proches, à leurs pères, à ceux qui sont les plus près d'eux socialement? C'est ce que j'appelle se tromper de violence. Parce que si les gens ne se trompaient pas de violence, et s'ils arrivaient à la canaliser sur les objectifs que ça mérite, on n'en serait peut-être pas là.
Et donc, pour citer encore un autre auteur célèbre, il n'y a pas d'autre choix que le noir?
Non.
Non.
Je ne crois pas. En tout cas, dans ma vision effrayée du monde, je ne vois pas de quelle autre façon littérairement je pourrais l'exprimer.
On va finir par un petit peu de musique. Vous avez choisi Patti Smith et des paroles de... Oh Jacques, faut m'aider, moi je ne sais plus.
Bruce Springsteen,
oui. Because the Night, on est encore dans le noir.
Ah ouais, Bruce Springsteen, parce que ses chansons, la plupart sont des petites...
Petits romans noirs,
ce sont des nouvelles à la Chris O'Fut ou à la Larry Brown, bon, qui sont mes auteurs, voilà. Mes auteurs, enfin certains de mes auteurs préférés, donc voilà, The River, peu importe.
Et la voix de Patti Smith.
Et la voix de Patti Smith, qui alors là, c'est une, elle c'était une espèce de sorcière indienne, new-yorkaise, qui incarne sa voix, ce velouté, cette rage, côté écorché de sa voix, mais aussi la douceur dont elle est capable. Mais c'est peut-être une façon d'écrire le roman noir. La rage, la douceur, l'amour, l'intensité, la profondeur. Les grands romans noirs que j'aime lire, en général, je leur trouve ces qualités-là.
Eh bien, moi, je vais retourner le compliment parce que je retrouve ces qualités-là dans votre roman. Prendre des loups pour des chiens. Donc, Hervé Lecor, merci beaucoup d'avoir consacré ces instants à nos questions. Et puis, on va se quitter avec la voix de Patti Smith. Merci. Au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup.
Take me now. Oh, baby, here as I am, pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand.
Bien, voilà, on quitte avec regret Patti Smith et cette version de Because the Night en acoustique. C'est Olivier Rey qui joue de la guitare, pour ceux que ça peut intéresser. Patti Smith nous a permis de passer en quelques minutes du festival Polar du Rouge au Noir à Lunel pour intégrer nos studios Villeneuvois, que l'on espère un petit peu plus calme. Nous allons découvrir ensemble le nouveau roman d'un auteur qu'on aime bien en de noir, Jean-Hugo Pell. Son roman se nomme 19 500 $ la tonne, et il est publié à la manufacture du livre en ce début mars. Un titre à la fois percutant et intrigant s'il en est. Qu'est-ce qui peut bien coûter 19 500 € la tonne, se demande-t-on? C'est simple, la réponse est sur la quatrième de couverture et dès les premières pages du roman. C'est le cours moyen de l'étain au moment de l'écriture de ce livre. Il est aujourd'hui, si ça vous intéresse, enfin du moins la semaine dernière, au cours de 19 363 $, ce qui ne change pas fondamentalement le livre. Son numéro atomique, c'est le 50 dans la table de Mendeleïev, mais je vais pas à vous faire un wiki complet de l'étain, car malgré le titre, le sujet du polar de Jean Hégopel, ce n'est pas que ça. On expliquait il y a quelque temps sur France Info que le métier de trader était en voie de disparition, ce qui semble plutôt une bonne nouvelle. Mais en fait non, car ces gens sont remplacés par des algorithmes bien plus performants. Et encore pire, quoique, qu'un bout de code dans un ordinateur mette dans la misère 200 ou 300 000 personnes d'un coup, sans état d'âme, c'est normal, c'est une machine. Mais que le même résultat soit obtenu par un humain, certes, un humain pour qui les seuls états d'âme sont le niveau de son compte en banque, ce n'est pas pareil. Pourquoi je vous raconte ça ? Simplement parce qu'il y a un type de ce genre-là, donc un trader, de haut vol même, un trader dans ce roman. Il s'appelle Leonard Parker Chambord, remarqué pour les aficionados de romans noirs, le nom, Leonard Parker Chambord. Il est surnommé Killer Bob, c'est vous dire à quel point il fait son métier bien. Il y a aussi un tueur à gages. Lui, son faux nom, c'est Falcon. Et il y a aussi une gonzesse, pardon mesdames, mais il en faut bien une dans un roman. Elle est analyste à la CIA. Elle est d'origine asiatique. Son nom, c'est Lucy Chan. Mais c'est une analyste façon Jack Ryan, le héros de Tom Clancy que vous connaissez peut-être. C'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de lire ses dépêches derrière un bureau. Elle mouille la chemise et elle va sur le terrain en avion, en hélico ou en jeep pourri. Et Jean-Hugopel va faire s'entrecroiser les destins de ces personnages, des croisements parfois lointains, mais les actions de certains vont influencer sur la vie des autres et réciproquement. Le tout, si j'ose dire, est ponctué par une newsletter d'un lanceur d'alerte, comme il y en a désormais pas mal. Celui-ci s'appelle Mr. K et sa newsletter est édifiante, fort intéressante, car elle nous dévoile pas mal des dessous, des affaires financières, etc. Je vous laisse les découvrir. Donc, ce roman de Jean Hégopel, en fait, c'est un thriller politique et financier. Mais bon, thriller, c'est quand même plutôt péjoratif, faut bien dire. Donc, on va dire que c'est un roman noir d'action dans les milieux de la finance. Mais c'est aussi un polar d'espionnage parfaitement structuré, impeccablement construit. Hopel utilise l'alternance des narrateurs, la newsletter ou des infos sur les cours de la bourse qui s'intercalent dans le récit pour maintenir une forte tension narrative. Un récit qui emploie, par moments, un ton faussement badin. Un peu le sérieux de James Bond avec l'humour de John McClane. Et les geeks du NCIS et la fameuse rousse qui hante souvent les romans de Jean Hégopel. Et quand je dis un ton faussement badin, bien sûr, il y a des private jokes. Les allusions plus ou moins déguisées aux références cinématographiques, télévisuelles ou littéraires que j'évoquais ou que j'ai à peine soulignées. Mais ce ton faussement badin permet à Jean Hégopel de raconter aussi, de façon presque naturelle, les belles saloperies que l'on nous prépare ou celles qu'incidemment on nous a déjà servies. Vous les découvrirez en lisant les quelques 250 pages de ce roman. Et Jean-Hugopel va trimballer son lecteur dans les dédales du siège de la CIA à l'anglais, jusque dans certains bureaux de la City à Londres, ou dans certains endroits aussi de Manhattan. Et on passera aussi par des pistes infestées de mercenaires et d'enfants soldats, aussi bien au Nigeria que dans la République démocratique du Congo. Comme il le dit à un moment, il faut toujours se méfier des pays qui se sentent obligés de préciser « démocratique » dans le nom de leur État. C'est pas qu'ils le soient toujours donc. On passera aussi rapidement par le Venezuela. Il sera question du traité TAFTA qu'on veut nous imposer ou d'un vinyle mythique des Beatles, car il ne saurait y avoir un de bon roman noir sans un petit peu de musique. Il faut du rythme dans un roman d'action. Il faut que ça s'accélère, que ça bavarde, et puis ça reparte. Il faut que les tueurs tuent, que le sang gicle, que les barman fassent des cocktails, et qu'à défaut d'Aston Martin, il y ait une belle Jaguar XJ. Et je vous répète, méfiez-vous du ton badin dont je parlais tout à l'heure, car la dernière page refermée, le roman flottera autour de vous pendant un bon moment. Donc je rappelle, avant de nous quitter, de vous souhaiter un bon moment dans un bon coin, avec un bon roman, ou plusieurs, comme j'ai l'habitude de le dire, le roman de Jean Hugopel s'appelle 19 500 $ la tonne, et il est publié à la Manufacture de Livres.